100% d'Europe, Juliette Rangeval.
J'aime bien travailler, mais ça dépend des jours. Il y a des jours pour et des jours pour pas travailler.
Bonjour, recherche main-d'œuvre désespérément. Actuellement, les entreprises cherchent à embaucher et dans certains secteurs, elles n'arrivent pas à trouver. Le phénomène est lié à la reprise après les mois d'arrêt dus à la pandémie. Mais pas seulement, la problématique existe depuis plusieurs années en France notamment. Mais les confinements sont passés par là et ceux qui travaillent interrogent de plus en plus leur rapport à l'emploi, leurs conditions de travail et leur salaire. Les secteurs les plus touchés sont le bâtiment, l'industrie, l'aide à domicile, mais aussi la restauration. Un reportage de Lise Verbeck dans le nord de la France.
Sur le site internet de Pôle emploi à Amiens, près de 80 postes sont à pourvoir dans l'hôtellerie-restauration. De plus en plus d'établissements accrochent même directement sur leur vitrine des affichettes pour signaler qu'ils recrutent. La restauration, Lucienne, 32 ans, l'a quittée il y a quelques mois.
Alors, j'ai travaillé 14 ans dans la restauration. J'ai commencé comme débarrasseuse-redresseuse, après j'ai été serveuse. Ensuite, j'ai travaillé en cuisine et par la suite, mon dernier poste, j'étais 5 ans manageuse.
Pendant le Covid, une bonne partie de son équipe était en chômage partiel, mais elle a continué à travailler pour faire des commandes à emporter.
Je me suis retrouvée à devoir tout faire en fait. J'étais chef de cuisine, j'étais manageuse, serveuse, femme de ménage, plombière. Et en fait, j'ai clairement pété un plomb et j'ai fait un burn-out.
Elle réfléchissait depuis longtemps à quitter le métier, qui était pourtant sa passion. Et le Covid a été le déclencheur.
Si on était payé plus, qu'on avait plus d'aide, etc., on serait plus motivé à perdurer le service jusqu'à tard. Moi, au bout d'un moment, à la fin, mon horaire de fermeture, c'était 22h. Je finissais par fermer à 21h30 parce qu'au bout d'un moment, j'en pouvais plus, quoi. J'en pouvais plus d'être sous-payé, voire pas payé. Parce que souvent, les heures supplémentaires sont pas payées, en fait. J'étais payée 1 800 €. Mais ça, c'était ma dernière année de fonction. J'ai galéré pour négocier ces 1 800. Sinon, à l'origine, j'étais payée entre 1 400 et 1 600. Et j'avais un système de récupération d'heures que, en fait, j'avais jamais le temps de récupérer. Et en gros, je suis partie avec une rupture conventionnelle et je me suis assise sur environ 150 heures d'heures supplémentaires.
Comme Lucienne, beaucoup de salariés de la restauration ont quitté leur travail après le Covid. Au restaurant Le Préporus, qui peut accueillir jusqu'à 90 couverts, 2 des 7 salariés ont remis leur démission. Les horaires décalés ne leur convenaient plus. Les remplacer a été compliqué pour le patron, Patrice Chelmy, dont l'équipe est encore en sous-effectif.
Il me manque au moins 2 cuisiniers pour pouvoir avancer dans les mois à venir.
Pour que le métier redevienne attractif, il a son idée.
Il faut qu'on augmente les salaires, c'est incontournable. Je pense que la profession doit se remettre en question, doit réfléchir. On doit être force de proposition auprès du gouvernement. Peut-être baisser les charges et puis on peut aussi travailler sous un autre taux de TVA aussi peut-être. On a quelques pistes comme ça à jouer.
À son échelle, le restaurateur va tout faire pour essayer de mettre en place l'année prochaine 2 équipes différentes, le midi et le soir, pour ainsi éviter la rupture entre les 2 services et l'impression de faire 2 journées en une. Et il faut aussi, selon lui, accentuer l'apprentissage.
Là où on est en retard, je pense, c'est sur la formation de nos jeunes. L'Allemagne, ça fait des années qu'ils ont mis en avant l'apprentissage. Effectivement, le gouvernement a boosté l'apprentissage, mais il faut qu'on en fasse 2 fois plus. Et ça, l'apprentissage, c'est peut-être l'avenir pour sauver notre profession.
S'il y a en France environ 800 000 offres d'emploi en cours, selon la Confédération des petites et moyennes entreprises, et en face 3 millions de chômeurs, cela peut s'expliquer notamment par ce manque de formation.
Appel en cours. Parle.
Je vous ouvre.
Merci. Et le secteur du bâtiment en pâtit.
C'est plus comme avant, quoi. On a vraiment besoin de techniciens. C'est-à-dire qu'on avait une tendance dans le temps à dire « Bah oui, tu sais pas quoi faire, va dans le bâtiment, machin truc, et puis on va te former sur le tas, etc. » Aujourd'hui, on avait de véritables techniciens. Je vous mets au défi aujourd'hui de trouver quelqu'un qui arrive sur un terrain vague et puis au bout de 6 mois, on se retrouve avec un bâtiment tout construit où on appuie sur les boutons puis la lumière s'allume, quoi. Donc,
Ludovic Cardon est le directeur du GEC dans les Hauts-de-France, le groupement d'employeurs pour l'insertion et la qualification dans le BTP. ATP. C'est une association qui aide les entreprises à résoudre leurs problèmes de recrutement en embauchant directement des personnes éloignées de l'emploi, jeunes sans diplôme, chômeurs longue durée ou encore bénéficiaires du RSA. Pendant un an, les salariés sont sous contrat de professionnalisation et ils sont formés.
On essaye de trouver une formation qui est adaptée non seulement aux besoins, donc je reviens aux besoins de l'entreprise, mais aussi aux capacités de notre futur salarié. Donc en fait, le salarié est mis à disposition par notre structure au sein de l'entreprise. Et le but du jeu, c'est qu'il soit embauché par l'entreprise à la fin du parcours. C'est surtout, on met notre salarié au cœur du projet, nous. Donc on va adapter la formation tout en tenant compte de la personne, de s'adapter aussi aux besoins de l'entreprise. C'est du sur-mesure. Moi, on fait beaucoup de tricot. Enfin, on se casse un petit peu la tête pour les montages des plans de formation. Enfin, j'ai une entreprise qui m'a dit un jour, tu me trouves les gocs, moi, j'arrive pas à trouver, quoi.
Et pour que cela marche, il faut que l'entreprise ait cette fibre sociale, qu'elle joue le jeu de l'insertion et accepte de prendre le temps de former. L'association affiche un taux de réussite de 75% d'embauche après un an d'alternance.
Comparativement, le Royaume-Uni semble plus durement touché par les manques de main-d'œuvre constatés en Europe. Pendant l'été et à l'automne, on a pu voir des étagères de supermarchés clairsemées, des stations essence à sec à cause d'un manque de conducteurs de camions-citernes et un mouvement de panique dans la population. On fait le point à Londres avec notre correspondante Marie Billon. Bonjour Marie.
Bonjour Juliette.
Ici, ce sont bien des pénuries de main-d'œuvre dont on parle. Elles sont dues à quoi ?
Alors il y a un double facteur. La pandémie et la reprise ont comme partout eu des conséquences sur les chaînes d'approvisionnement, mais il faut ajouter à ça le Brexit. Par exemple, selon l'Association nationale du porc, habituellement 60 à 80% des travailleurs dans l'industrie du traitement de la viande au Royaume-Uni sont européens. Beaucoup sont retournés dans leur pays d'origine après le Brexit, au début de la pandémie ou bien encore au printemps, quand les confinements ont commencé à être levés en Europe et que de nouvelles opportunités professionnelles se sont présentées à eux, plus près de leur famille. Ajoutez à cela le coût de la vie en hausse et la faiblesse de la livre sterling face à l'euro. Tout cela rend le travail au Royaume-Uni moins attractif. Le problème est le même chez les routiers, même si là, la pénurie de main-d'œuvre existait déjà avant le Brexit et avant la pandémie. En 2019, l'Association du transport de marchandises estimait déjà que le Royaume-Uni manquait de 60 000 conducteurs.
Pour parer à l'urgence, le gouvernement a annoncé 10 500 visas pour les chauffeurs routiers et les travailleurs de l'industrie de la volaille. Et puis aussi pour le secteur porcin.
Oui, et la grande question est, ces visas trouvent-ils preneurs ? Beaucoup en doutaient d'abord, et c'est vrai que ça a mal commencé. Parmi les 300 visas temporaires pour les routiers, disponibles immédiatement, seules 127 candidatures avaient été déposées le 5 octobre. Mais selon la chaîne ITV, la situation s'est nettement améliorée. Environ la moitié des 10 500 visas pour les industries du transport et de la volaille auraient trouvé preneurs.
Alors justement, le gouvernement britannique était réticent à proposer ces visas.
Oui, parce que Boris Johnson, le Premier ministre, a dit qu'il ne fallait pas actionner le vieux levier de l'immigration de masse qui abaisse les salaires, mais construire une économie basée sur les hauts salaires et l'amélioration de la productivité. Et oui, les entreprises ont augmenté les salaires. J'ai parlé à un directeur de transport routier qui a revalorisé les salaires de ses 115 chauffeurs de 10% depuis le début de l'année, un phénomène général dans tous les secteurs touchés par la pénurie. Mais il restait plus d'un million d'emplois à pourvoir au troisième trimestre 2021 selon l'Office national des statistiques et la question de l'amélioration des conditions de travail reste-t-elle complètement posée.
Merci Marie, à bientôt. Les partis politiques sont désormais en ordre de bataille pour les législatives d'avril prochain. Face au Fidesz, l'opposition de la gauche à l'extrême droite s'est unie pour présenter un seul candidat. Après les primaires, c'est à Peter Markezai qu'il revient de tenter de battre le Premier ministre sortant, l'inamovible Viktor Orban. Peter Markezai est un politicien de 49 ans, il n'est affilié à aucun parti et il s'est imposé un peu à la surprise générale. Romain Lemariski.
C'était l'outsider des primaires de l'opposition et désormais Peter Markizay est l'outsider des prochaines élections législatives hongroises prévues en avril 2022. Mais qui est cet homme politique qui veut faire tomber l'indéboulonnable Viktor Orbán, Premier ministre hongrois en fonction depuis plus de 11 ans. Un inconnu sur la scène européenne, non affilié, mais qui ne cesse de prendre du galon dans son pays depuis plus de 3 ans, comme l'explique Andrea Virag, politologue hongroise.
Peter Markizay est une figure politique très intéressante en ce moment. Jusqu'à présent, c'était un outsider. Il ne faisait pas partie de l'opposition traditionnelle. Il a travaillé pour des entreprises aux États-Unis, au Canada. Il est ensuite revenu en Hongrie et en 2008, il a remporté la mairie d'une ville de taille moyenne. C'est un provincial, un catholique pratiquant, culturellement conservateur et sur le plan économique un peu plus libéral et pro-marché que les figures politiques de l'opposition traditionnelle.
Troisième à l'issue du premier tour des primaires de l'opposition, Peter Markizay a pu finalement participer au second tour suite au désistement du maire de Budapest qui estimait que ce provincial aurait plus de chances de battre le Fidesz et Viktor Orbán lors des prochaines législatives. Et c'est sur un discours résolument anticorruption qu'il est parvenu à s'imposer. Peter Markizay va donc être à la tête d'une coalition de 6 partis allant de la gauche à l'extrême droite, une coalition qui compte annoncer une liste unique pour les élections législatives, seul moyen de venir à bout du Fidesz. Et maintenir cette union entre des partis aux idées si différentes s'annonce compliqué, comme l'explique Catherine Aurel, historienne et spécialiste de la Hongrie.
Ce qui va être déjà difficile, c'est de faire la liste. C'est un scrutin proportionnel. Donc, comment va-t-on composer cette liste qui va être la liste qui va se présenter face à Viktor Orbán et au Fidesz ? On peut être un petit peu, disons, sceptique, dans l'expectative tout du moins, pour voir comment la liste va être composée et si elle va être suffisamment attractive pour tout l'électorat qui est susceptible de voter anti-Orbán.
Si d'aventure l'opposition parvient à s'entendre, Peter Markizay sera-t-il en mesure de s'imposer face à la machine du Fidesz et à un Viktor Orbán qui semble inatteignable ? Pour Andrea Virag, cela dépendra de la capacité de Peter Markizay à convaincre les indécis.
En ce moment, étant donné la situation, l'opposition et le gouvernement ont à peu près le même nombre d'électeurs. Donc, les élections de 2022 vont certainement se jouer avec le vote des indécis et Peter Markizay pourrait bien compter sur ses voix.
Pro-européen, MZP comme on le surnomme, souhaite que son pays adopte l'euro et devienne un membre plus proactif de l'Union européenne. Très différent de Viktor Orbán sur les questions d'immigration, de politique sociale ou encore de lutte contre la pauvreté, il compte séduire un électorat très hétéroclite qui n'a pour seul point commun la volonté de mettre un terme à l'aventure du Fidesz à la tête du pays. Un parti tout comme son leader qui commence à se poser des questions selon Catherine Aurel.
Depuis l'année dernière et la perte de Budapest et puis les progrès énormes de l'opposition aux élections municipales, on sent quand même que ça brûle un petit peu autour de Orbán et du coup, il se braque, il est de plus en plus agressif. Donc ça, c'est quand même un signe que l'édifice semble en péril.
Peter Markizay veut bousculer la scène politique hongroise et il compte donc bien créer à nouveau la surprise lors des élections législatives prévues en avril 2022.
Au printemps et à l'été dernier, les habitants des rives de la mer de Marmara en Turquie ont vu se répandre sur leurs plages et dans leurs ports d'épaisses couches d'une mousse visqueuse qui dégage des odeurs d'algues en décomposition. Cette substance végétale, c'est le mucilage qui apparaît naturellement dans la mer de Marmara et à travers le monde. Mais cette fois, le phénomène a pris des proportions jamais vues en Turquie. En cause, la pollution intensive sur les rives de cette mer intérieure, relativement petite. Et si rien n'est fait, le phénomène se reproduira en s'aggravant, asphyxiant peu à peu la vie sous-marine et tarissant les ressources halieutiques dans ces eaux autrefois prodigues. À Istanbul, c'est un reportage d'Anand Lauer.
Dans quelques heures, si le temps est propice, Cem Gündoğdu aura quitté le port de Rumeli Feneri, tout au nord d'Istanbul, aux commandes de son grand bateau, un Senneur vert et blanc. Comme son père avant lui, Cem pratique depuis 26 ans cette vieille technique de pêche
par encerclement du poisson. Pendant un mois et demi, il remontera du lufaire des eaux de la mer Noire. Le lufaire, qu'on appelle tassergal en français, est un poisson des mers chaudes. Il ressemble au loup de mer ou au bar. En Turquie, son nom est surtout associé au détroit du Bosphore et à la mer de Marmara. Mais ces dernières années, Cem n'y jette presque plus ses filets.
Autrefois, il y avait des coraux en mer de Marmara et de grosses moules. C'était tout un espace de vie pour les poissons. Ils s'égayaient dans les fonds marins. Ils y trouvaient de la nourriture en abondance. Désormais, les poissons passent directement de la mer Noire au détroit des Dardanelles qui ouvre sur la mer Égée. Pourquoi s'attarderait-il en mer de Marmara? Le fond de cette mer est saccagé, couvert de résidus visqueux. Moi, c'est ce que j'appelle une mer morte.
Les résidus visqueux dont parle ce marin au visage poupin, ce sont les mucilages. Parfois surnommés morphes de mer, ils apparaissent quand des organismes végétaux vivant en suspension dans l'eau gonflent jusqu'à former une sorte de mucus jaunâtre. Les mucilages menacent l'écosystème, notamment en bloquant la lumière du soleil et en privant la faune et la flore sous-marine d'oxygène. Cem les croisait depuis 15 ans de manière sporadique, mais à l'été 2021, c'est toute la côte sud d'Istanbul qui s'en est retrouvée couverte. Le principal coupable est connu, une pollution intense. Celle due aux eaux usées de la région de Marmara, de ses 25 millions d'habitants et de ses zones industrielles, qui se déversent dans la mer à la suite d'opérations d'épuration peu ou pas efficaces, voire inexistantes. Nihan Temizattaş, chargée de campagne pour Greenpeace Méditerranée.
La mer de Marmara ne peut tout simplement plus digérer les eaux ménagères, urbaines, industrielles qu'on y déverse depuis 32 ans. Normalement, ce qu'on appelle le déversement en eau profonde requiert l'expertise d'ingénieurs, mais ce n'est pas du tout ce qu'on fait depuis 32 ans en mer de Marmara. Ce qu'on fait, c'est utiliser ces courants de fond comme une sorte de tapis roulant dans l'espoir d'acheminer les eaux usées jusqu'à la mer Noire. Or, seuls 10% de ces eaux usées arrivent effectivement en mer Noire. Et même si on arrivait à y acheminer la totalité des eaux usées, ce n'est pas une solution. Ça n'a pas de sens de préserver une mer et de sacrifier l'autre.
Dans l'urgence de l'été, les autorités turques ont adopté un plan d'action pour la mer de Marmara. Aspirer le mucilage qui s'accumulait en surface. Mais dans les profondeurs marines, la vie continue d'étouffer. Et sur les côtes d'Istanbul, le mucilage reviendra bientôt. C'est une certitude. Nihan Temizattaş.
La solution que nous défendons, c'est que les installations qui produisent ces eaux usées se chargent elles-mêmes sur place de les épurer. Ou alors qu'elles soient épurées en utilisant d'autres méthodes chimiques, mais sans les mélanger aux eaux usées d'autres installations. Il faut d'urgence arrêter de considérer la mer de Marmara comme un entrepôt de déchets qu'on pourrait salir et rendre malade sans crainte des conséquences.
Cem, le pêcheur, lui, est en colère.
Istanbul grandit sans mesure, s'urbanise sans mesure. Certaines usines rejettent leurs eaux usées dans les rivières, dans l'illégalité et l'indifférence totale. Nous, pêcheurs, quand on déverse quoi que ce soit dans la mer, on nous tombe aussitôt dessus et on nous sanctionne. Pourquoi ne fait-on rien contre ceux qui rendent les rivières toutes rouges, toutes vertes, violettes? Où vont ces eaux? Directement dans la mer? Pas étonnant qu'elles vomissent toute cette pollution.
Si rien n'est fait, Cem n'est pas sûr de pouvoir transmettre son métier à ses enfants et petits-enfants.
Nos aînés disaient, là-bas, il y a du chinchard, là, du lufaire, là, de l'anchois. Mais nous, on y va et on ne trouve rien. Là, c'est la mer de Marmara qui crie au secours. Et dans moins de 50 ans, si ça continue comme ça, la mer Noire subira la même chose. Surtout si on continue d'urbaniser ses côtes. Je ne dis pas qu'il ne faut rien construire, mais si on construit, alors il faut prévoir comment gérer toute la pollution qu'on crée.
Autre cauchemar en perspective pour les défenseurs de la mer de Marmara, le projet Canal Istanbul. Les autorités turques veulent creuser un second détroit entre la mer Noire et la mer de Marmara et, sur les rives de ce canal, une ville nouvelle d'un demi-million d'habitants au bas mot. Un projet fou qui, s'il voit le jour, rendrait, selon ses détracteurs, Istanbul invivable, sur terre comme sous la mer.
Accent d'Europe à la réalisation Victor Hull. Le podcast de l'émission est disponible sur RFI.fr ou sur les plateformes d'écoute. À bientôt.